Parlons économie sur Radio Lac et les chaînes Carac.
Une émission autour des exigences et des habitudes de consommation des consommateurs et des consommatrices, notamment à Genève, avec Mohamed Atti, avec Rebecca Ababou, avec Frédéric Schrev, avec Grégory Descaillet. Et donc, je le disais il y a quelques instants, cette étude autour des habitudes du Grand Genève hein, que vous connaissez par cœur, Mohamed Atti.
Alors, je ne connais pas par cœur, mais effectivement, il y a une étude qui a été menée sur les habitudes de consommation du Grand Genève en 2024. Celle d'avant c'est plutôt une mise à jour. Hein. En réalité, il y en a une qui a été menée en 2018, et puis en 2024, on a mis à jour cette étude qu'il faut prendre parfois avec des pincettes parce qu'il y a eu aussi les habitudes du Covid dont on discutait, mais on constate quand même que effectivement l'un des plus grands défis de la consommation, c'est effectivement la vente en ligne qui, en particulier pour le commerce non alimentaire, qui a pris l'ascenseur et on le constate en fait avec une évolution de 3 fois plus de consommation en ligne en 2024 par rapport à 2018.
Alors comment est-ce qu'on fait? On ne va pas lutter, j'ai le sentiment, contre le commerce en ligne. Je ne parle pas de la qualité ou non du commerce en ligne, mais du point de vue d'un consommateur ou d'une consommatrice, je commande, je reçois chez moi, j'essaye mes vêtements, je les renvoie, tout ça c'est gratuit, oh dis donc, ça c'est formidable. Il y a des gens aujourd'hui qui vont tester des produits dans des magasins, qui après les commandent sur Internet, parce que c'est moins cher sur Internet, sans forcément se dire, tiens, je participe peut-être pas à un système très vertueux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? À qui veut? Parce que je vois tout le monde dire d'accord,
tout le monde me regarde.
Bon ben alors ça sera pour vous, Grégory Descaillet, Migros Genève.
Alors on est dans une mutation assez profonde des modes de consommation. Je pense que la dernière fois qu'on a vécu une telle mutation, c'était la période de l'après-guerre, quand on est rentré dans l'industrialisation, donc vraiment la consommation de masse qui a suivi sur les années 70-80. Et maintenant, on a un shift qui se fait, effectivement, avec l'évolution des technologies sur tout cet aspect de consommation digitale, dans lequel il faut vraiment différencier l'alimentaire du non-alimentaire. C'est deux dynamiques qui sont totalement différentes, surtout sur le non-alimentaire. On est sur quelque chose qui s'est globalisé, d'abord avec une première étape avec les Américains, les GAFA qui sont arrivés sur l'Europe, mais tout en étant des acteurs économiques en Europe. Ils ont des entrepôts en Europe, ils créent de l'emploi en Europe. C'est une forme de concurrence différente, ils n'ont pas de magasin physique, mais il y a quand même une activité économique qui est là. C'est une première mutation, je dirais, qui se fait dans une certaine bonne concurrence, je ne vais pas dire douceur, mais dans une certaine bonne concurrence. On a maintenant un nouveau modèle qui arrive, qui sont les dizaines d'avions qui arrivent toutes les nuits d'Asie, pour être directement distribué dans les boîtes aux lettres. Donc aucune création de valeur. Et là, on a un manque de régulation qui est assez important, parce que c'est des prix j'ai même pas de dénominateur pour ça, mais qui sont en dessous des prix d'achat. Il n'y a pas de comparaison à ça. Mais
quand
en plus,
une peluche est vendue de France, c'est sûr qu'elle n'a pas coûté grand chose à fabriquer, donc c'est un problème.
Et surtout des produits qui sont aussi pas contrôlés par rapport à leur conformité, la toxicité, et surtout pour les enfants, les jouets.
Parce que je vous renvoie vers Radiolac.ch. On a fait toute une enquête là-dessus, précisément sur les problématiques qu'il y a, et même certains jouets qui ont le petit symbole CE, qui sont censés respecter les règlements, c'est juste apposé dessus comme ça. Il n'y a rien qui a été fait pour que ces jouets soient valables. Donc attention où vous commandez vos jouets, vos peluches, et pas seulement pour les fêtes de fin d'année. Et je vous rends la parole.
Merci. Et c'est là où je crois qu'il faut travailler. C'est vraiment d'avoir une régulation. En France, par exemple, ils sont en train de réfléchir pour introduire une taxe aux petits colis, pour essayer de réguler et d'avoir une forme de concurrence qui soit acceptable. Mais pour revenir à la question, je pense sur tout cet aspect de fast fashion et de j'achète beaucoup et je renvoie, on est en train de revenir en arrière. On voit des grands acteurs, je ne vais pas les nommer ici, mais qui commencent à faire payer aussi les retours. Donc à la fin, c'est une question de régulation et une question de porte-monnaie. Et c'est là où il faut trouver le bon équilibre, mais c'est un jeu entre les acteurs économiques, la politique. Et malheureusement, la Suisse étant petite et au milieu de l'Europe, elle ne réussira pas toute seule. On a besoin de travailler au minima à un niveau continental face à ce qui se passe avec tout ce qui vient d'Asie.
Alors, comment est-ce que l'on fait? On ne va pas toujours envoyer Grégory Descaillet au feu, hein, Frédéric Schrev ou Rebecca Ababou. Comment est-ce que l'on fait pour garder les gens dans ce système d'achat d'une seule marque ou d'une seule entité? Peut-être aussi de favoriser un déclenchement d'achat. Qu'est-ce qui est faisable?
Alors, ce que je trouve intéressant avec cette discussion, c'est qu'on a tendance à souvent mettre le digital contre le physique et le physique contre le digital.
Or, certaines marques, mais c'est vrai que ça peut être très vertueux.
Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas l'un ou l'autre. Souvent, les consommateurs, les clients font les deux. Dans le contexte du premium et du luxe, en fait, le digital permet, dans la majorité des cas, de préparer un achat et d'informer sur un produit ou un service. Et puis ensuite, c'est le physique qui va déclencher en fait l'achat. Donc, beaucoup de clients font pas l'un ou l'autre, font les deux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut définir aussi un petit peu les catégories de produits. Vous avez la beauté, par exemple, qui pèse beaucoup plus lourd dans le digital que, par exemple, l'horlogerie ou la joaillerie. Et encore, ça dépend, puisque maintenant, puisqu'on parle ici de Genève, il faut savoir qu'à Genève et en Suisse, la beauté en ligne, les achats en ligne de beauté, ça ne représente que 10% du business. 90% est fait dans le physique, dans le brick and mortar. Alors qu'en Allemagne, c'est 40%. Donc, voilà, tout le défi, c'est de créer des parcours d'expérience client qui combinent le digital et l'humain, etc., etc. Mais on sait quand même que, et c'est ce que disait ma collègue tout à l'heure, en fait, c'est dans le magasin, dans le point de vente physique, qu'on va ressentir, déjà, qu'on va pouvoir faire travailler les cinq sens. C'est là que vont se déclencher les émotions, c'est là que se déclenche la relation. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'il y a un grand cabinet d'audit qui avait fait une recherche à ce sujet, qui, il y a 10 ans, a dit les achats dans le luxe vont plafonner en physique, vont rester autour des 70% plancher versus 30% en ligne. Après arriver le Covid, alors évidemment c'est devenu du 100% puisque tout se faisait en ligne. Et en fait, graduellement, on revient maintenant, et en moyenne, on revient à ce 70 et ce 30. Donc en fait, dans notre domaine, en tout cas dans le domaine des clients que nous on sert, et qu'on aide justement à... qu'on accompagne dans leur performance, en fait, il n'y a pas d'antagonisme entre les deux, c'est presque systémique, en fait.
À tel point que moi, j'étais presque surpris, on avait quelqu'un du bon génie il y a quelques semaines dans cette émission qui disait, mais les gens, l'habitude qu'ils ont de venir en voiture, par exemple, hein, faire leurs courses, leurs commis, ça, c'est aussi quelque chose que vous remarquez, Mohamed Atiek ?
Absolument, et que l'enquête aussi soulève, hein, c'est que toujours dans les habitudes de consommation, le transport individuel motorisé en déplacement pour consommer est toujours le premier moyen de transport. Et donc on doit aussi, au-delà de l'expérience client, mais avoir des conditions cadres qui permettent aussi aux clients de pouvoir accéder à ces magasins pour pouvoir justement avoir cette expérience. Et donc là, on peut parler de mobilité, on peut parler aussi d'aménagement. Ces éléments-là sont absolument fondamentaux pour aussi préserver une vie au centre-ville et une vie autour de ces commerces.
Ou alors peut-être de trouver de nouveaux moyens de livraison, etc. Il y a des choses qui se font, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de réponse complète à un problème aussi complexe que celui-ci. Est-ce que c'est plus simple, je mets des guillemets, Rebecca Ababou, quand les clients sont principalement des hôtels et des restaurants, où finalement le web devient automatiquement une vitrine ?
Tout à fait, même si avec le digital dans la restauration, ce seraient les livraisons qui étaient très très poussées pendant le Covid. Aujourd'hui, ça continue, il y a toujours des produits qu'on va chercher pour un besoin finalement qui n'est pas le même qu'on va chercher à remplir lorsqu'on va sur place, que ce soit même un burger, quand on veut le manger sur place avec des copains, c'est pas la même chose que quand on se le fait livrer le dimanche soir sur son canapé.
Non, il est froid.
Voilà, oui, alors ça va plus ou moins bien, mais... Et je crois aussi que les gens ont compris que certains produits se mangent pas à l'emporter. Typique, je trouve que les ramen ou les soupes, on est toujours un peu déçus, parce que, en l'occurrence, c'est souvent pas la même expérience. Effectivement, c'est une vitrine, mais on peut faire de la vente et même déclencher des achats avec, par exemple, des bons cadeaux, ou des cours de cuisine, ou des choses, ou des préventes pour des événements. Je suis aussi gérante et copropriétaire de chez Jean-Luc, une boîte de nuit à Genève, et c'est vrai que nous, on vend des réservations pour des dîners où les gens prépayent finalement leur expérience, et donc du coup, le fait que la dimension monétisée soit actée en amont, finalement, quand les gens viennent sur place, déjà, ils ont un autre budget qui s'est déclenché, sorti de nulle part, parce qu'ils ont l'impression que c'est gratuit, comme quand on va dans un club tout inclus, finalement, on a l'impression que c'est gratuit, donc en fait, on dépense beaucoup. Donc dans le digital, il y a quand même des opportunités de déclencher de la vente, à mon sens, et de créer de la fidélité, et de se rappeler aux bons souvenirs aussi des clients en vue de la concurrence de la restauration.
Et on en revient toujours à ce terme d'expérience, et on continue de développer tout cela sur Carac, sur Radio Lac.